Vous voyez comment on peut entrer en conflit en se garant à une place où il ne faudrait pas. Je crois que le thème « Gérer nos conflits » est un thème très important dans cette journée. Mais pour comprendre encore un peu mieux, il faut dire dès le début, les conflits sont inévitables. Les conflits sur cette terre, depuis la chute, font partie de la vie. Il n'y a que ce qui est mort où il n'y a plus de conflit. Partout où il y a la vie, il y a des conflits. Et quand on regarde de plus près, on comprend pourquoi. Je vais essayer de faire tout à l'heure une démarche pour vous montrer quatre types de conflits et vous comprendrez tout de suite. Il y a des conflits qui sont inévitables. Et j'aimerais vous inviter dès le début à accepter cette réalité. S'il vous plaît, lâchez prise sur votre espérance de pouvoir vivre quelle relation que ce soit sur cette terre sans conflit. C'est pas possible dans le couple, c'est pas possible dans la relation parent-enfant, c'est pas possible dans les églises, c'est pas possible dans les conseils, c'est pas possible. Et je crois que nous avons parlé là avec quelqu'un, dans la pause, j'ai dit, pour finir, nous perdons énorme, nous ratons beaucoup de la vie en courant après des chimères qui n'existent pas. Si nous voulons être bien dans la vie, il faut d'abord accepter la réalité telle qu'elle est et trouver sa place dans cette réalité. Et j'aimerais dire en plus, ça va dans la même direction, que dans cette nouvelle nature que le Seigneur nous a promis à travers cette nouvelle création, la possibilité de supporter, de gérer, de vivre et de traverser des conflits est comprise dans la nouvelle nature. Ça fait partie de ce qu'il a créé et préparé pour nous. Alors vous comprenez que c'est important pouvoir savoir comment gérer nos conflits pour pouvoir maintenir l'amour à travers les conflits. Cet amour indépendant, c'est pour cette raison que j'ai tellement insisté, qui est indépendant de la réaction du vis-à-vis. C'est cet amour-là qui pourra subsister et même se développer à travers des conflits. Je peux le dire par rapport au couple, et je crois que le couple dans un sens, du fait que c'est la relation peut-être la plus étroite que l'homme peut vivre, le couple est un exemple très souvent utile pour comprendre mieux. Les couples grandissent à travers les conflits gérés et traversés. Les couples grandissent. Et il y a une fois une image qui m'est venue qui exprime un peu cela. Dans les brins d'herbe, il y a des nœuds. Les nœuds, pourquoi est-ce qu'il y a des nœuds? Les nœuds rendent le brin d'herbe flexible. C'est comme des charnières un petit peu, le brin peut se plier à cet endroit. Quand il y a le vent qui souffle, il peut se plier. S'il n'y avait pas de nœud, le brin d'herbe se casserait. Et je crois que les conflits gérés, traversés, réglés, ce sont des nœuds dans les relations. Et ça rend les relations fortes et flexibles. Alors dans ce sens, j'aimerais bien que vous puissiez gagner à travers ce que nous allons vivre ensemble comme un autre regard sur les conflits. Je me suis dit, pour finir, il faudrait arriver à comprendre que la promesse de Romains 8, 28, « Toutes choses concourront au bien de ceux qui aiment Dieu », d'appliquer cette promesse à nos conflits. Je me rappelle très bien, il y a déjà pas mal d'années de cela, un groupe de couples m'avait une fois demandé de venir leur parler. Ils avaient envie de faire une retraite ensemble pour un week-end. Et ils m'avaient dit, écoute, on aimerait que tu commences par peut-être une heure avec le sujet que tu peux choisir. Normalement, je n'accepte pas que ce soit moi qui choisis le sujet. Je demande toujours à ceux qui m'invitent de choisir le sujet. Et là, j'avais l'impression que je devais être d'accord. Alors, quel sujet choisir? Qu'est-ce qu'on fait? J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Et c'était un moment, une telle surprise pour moi, ce sujet, que je ne l'ai plus oublié. Le Seigneur m'a dit, eu l'impression d'entendre de sa part, va et encourage-les au conflit. Je me suis dit, quoi? C'est ça que tu veux vraiment? Il m'a dit, oui, c'est ça que je veux vraiment. Alors je suis allé les encourager au conflit. Et c'est un peu ce que j'ai envie de faire aujourd'hui aussi. J'aimerais vous encourager, pas à les chercher, mais à savoir les vivre, les conflits. Mais j'aimerais commencer un petit peu encore avant. Et j'aimerais reprendre cette question, qu'est-ce que c'est qu'une relation? Et j'aimerais, à travers trois petits dessins, vous donner un peu une idée, qu'est-ce que ce serait une relation pour que ça soit quelque chose de vraiment possible de vivre avec liberté, dans la simplicité, en ne prenant pas trop de responsabilités, mais en prenant la nôtre ou la mienne personnelle, tout à fait. Et je crois que la première chose pour le premier petit concept, j'appelle ça c'est des concepts, ces dessins, il y en a certains qui les connaissent, le premier concept, quand on veut savoir gérer des conflits, je crois, c'est le triangle. Tu pourrais le montrer, Jean-Jacques, merci. Le triangle relationnel. Est-ce que tu peux le lever un petit peu? Oui. Oui, très bien. Ce triangle relationnel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, vous pouvez, et je vous invite à le faire, vous pouvez prendre Dieu dans chacune de vos relations. Impliquer Dieu dans chacune de vos relations. Une relation comme nous la vivons normalement, c'est comme si nous voyons cette partie horizontale du mari à la femme, par exemple. Chez nous, c'est très drôle. Je m'appelle Manfred et ma femme s'appelle Florette. Alors, ça parle toujours un peu de nous aussi. Et nous avons parfois l'impression que chacun a sa relation avec Dieu. Et c'est vrai. Mais si vous commencez à vivre vos relations dans le triangle, vous commencerez à faire des expériences très importantes. Parce que Dieu est ce même Dieu de chacun. Et vous comprenez que à travers la pensée des tuyaux ou du système, pour finir, vous entrez de cette façon-là, dans chaque relation, vous pouvez le prendre pour n'importe quelle relation, chaque relation devient une sorte de système où l'amour devrait couler. Et j'aimerais bien dire quelque chose par rapport aux flèches. Il y a cette partie verte, c'est pas très évident la différence entre le vert et le bleu, mais vous le voyez. Il y a l'amour de Dieu qui va me joindre, l'homme ou la femme, le mari. Et cet amour a envie de me traverser et de couler vers Fleurette, ma femme. Et qu'est-ce que ça crée chez elle? D'être aimée par son mari crée chez la femme un plus grand amour pour Dieu. Dans ce sens, il y a comme un flux d'amour dans ce circuit. Et Dieu est la source de l'amour, c'est donc quelque chose qui permet que cet amour ne manque jamais. Si nous nous branchons vraiment sur cette source là-haut, je suis convaincu, c'est quelque chose que j'ai dit à beaucoup de gens, c'est pour le couple, c'est pour toutes les autres relations, c'est vrai, vous ne manquerez jamais d'amour si vous vous branchez là-haut. D'inclure Dieu veut dire, je fais de Dieu celui qui me relie à l'autre par en haut, et je fais de Dieu celui qui me sépare aussi de l'autre, dans un sens. Je me suis dit qu'en haut du triangle, il y aurait comme la croix. Dieu veut nous lier l'un à l'autre, mais il veut aussi nous protéger contre l'autre. Il nous dira aussi protéger l'autre de nous, parfois. Il nous dira peut-être, et maintenant tu arrêtes. Et tu ne parles plus. Si nous obéissons est une autre question, mais je crois que les indications de ce qui serait nécessaire pour que la relation soit protégée, elles seront toujours là. Ou quand je reprends l'image du couple ou le vécu dans le couple, je pense à ce collègue, un médecin qui a travaillé beaucoup aussi avec des couples, qui a dit une fois dans une conférence qu'ils avaient dans leur relation des conflits tellement forts qu'ils avaient compris qu'ils ne pouvaient pas aller jusqu'au bout, c'était trop destructeur. Ils ont développé un système où le premier qui se rend compte de ce qui se passe dit « stop ». Et puis qu'est-ce qu'ils font? Ils se séparent. Et chacun va dans une pièce rencontrer Dieu. Et cet homme a dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Il a dit « Dieu ne m'a jamais donné raison ». Vous connaissez ça? Alors vous avez le même Dieu que moi. Hein? Il ne nous donne jamais raison. Dans ce sens, Dieu est toujours celui qui protège la relation. Vous pouvez vous décider, je vous donnerai l'occasion aussi cet après-midi, de vous décider de commencer à inclure Dieu dans vos relations. Mais vraiment consciemment, sachant, Seigneur, je te prends avec moi maintenant. Et tu ne seras pas mon Dieu. Et tu ne seras pas le Dieu de lui. Mais tu seras notre Dieu. C'est différent. Un seul Dieu pour les deux. Ça, c'est quelque chose qui peut vraiment, je crois, nous aider de savoir il y a quelqu'un dans la relation, alors, qui veillera toujours à ce que cette relation soit protégée et puisse être construite. Quelqu'un qui veillera toujours à ce que l'amour ne manque pas, parce que nous sommes branchés sur la source. Inclure Dieu, je crois que c'est quelque chose comme un secret que nous, les chrétiens, nous avons à notre disposition pour nos relations. Et c'est dommage si nous n'utilisons pas cette offre qui est là de la part de Dieu. Je veux être inclus dans toutes tes relations. Je veux être au milieu pour relier et pour séparer là où c'est nécessaire. Je veux construire l'unité. Un second qui parle maintenant plus de cette dimension horizontale, c'est ce que j'appelle la formule relationnelle. Et là, il y a un second grand secret qu'il faut comprendre. Pour pouvoir aimer, il faut être libre. Libre. Quand on rencontre des couples, on se rend toujours compte que ce qui a tué l'amour dans leur relation, c'est le manque de liberté. Pourquoi Dieu peut-il nous aimer si parfaitement? Parce qu'il est totalement libre face à nous. Il ne nous doit rien du tout. Et vous ne devez rien devoir à qui que ce soit, mes amis. Paul le dit très clairement dans Romains, ne devez rien à personne, sauf de les aimer. Et de les aimer, vous ne le devez dans un sens pas à l'autre, mais à Dieu. Ne devez rien à personne. La liberté est capitale. Aussi longtemps que vous êtes sous le joug d'être obligé d'accomplir des devoirs, de satisfaire quelqu'un, vous ne pourrez pas aimer. C'est le choix. Ou vous êtes libre et vous pourrez aimer, ou vous essayez de satisfaire des gens et vous ne pourrez plus aimer. Mais ce que le Seigneur nous demande, c'est d'aimer, et pas de satisfaire. La liberté, j'en parlerai encore un petit peu pour comprendre ce que c'est la liberté. Vous savez, la liberté n'est pas de pouvoir faire ce qu'on veut. La liberté, c'est un poète allemand qui l'a dit, Matthias Claudius, d'une façon formidable. La liberté, c'est de pouvoir vouloir ce qu'on doit faire. La liberté de Jésus-Christ l'a amené à lutter avec lui-même pendant 3 heures à Gethsémané pour aller librement à la croix, pour que ce soit vrai que il avait dit, personne ne m'ôte ma vie, je la donne librement, mais pour y arriver, d'aller librement et pas avec obligation, pas avec une obéissance amère, il a fallu cette lutte de 3 heures avec lui-même, pas avec le Père, avec lui-même. C'est ça la liberté. Je vous dis cette phrase, peut-être elle est si merveilleuse en allemand. Nicht der ist frei, der da tut, was will, sondern der ist frei, der da wollen kann, was tun soll. C'est celui-là qui est libre, qui peut vouloir ce qu'il doit faire. Avec la liberté, il faut en plus quelque chose d'autre. Ce que j'ai traduit par sollicitude. En allemand, on a un terme qui exprime peut-être mieux, il y a en allemand le terme de Zuwendung. Et ça comprend le fait que je me tourne vraiment vers quelqu'un, que je le regarde. Je le prends vraiment, je prends conscience de cette personne. La Zuwendung est quelque chose qui est lié à notre volonté. Je crois que dans le couple, cette Zuwendung, cette sollicitude est par exemple liée à cette décision claire d'être fidèle. C'est l'expression de cette sollicitude. Il y a un texte que j'aime beaucoup où nous nous rendons compte que même Jésus n'avait pas cette sollicitude d'une façon automatique envers chaque personne qu'il rencontrait. La rencontre avec le jeune homme riche dans Marc, il est dit, il lui donne la première réponse en lui disant, écoute, tu connais les commandements. C'était une réponse sans sollicitude. Excusez ça de le dire, mais vous comprendrez mieux. C'était une réponse générale. Une réponse qui est vraie, mais qui n'était pas liée à cette personne, de ce jeune homme. Et ce jeune homme a eu le courage d'insister. Il a dit, c'est ce que j'ai fait. J'ai tenu les commandements. Et puis il a dit littéralement, et Jésus le regarda. Et il l'aima. Littéralement. C'est-à-dire, là il y a un moment où cette sollicitude est vraiment là et lui donne une réponse tout à fait différente, qui est tellement pertinente, que le jeune homme s'en va très triste. Il n'a pas le courage d'exécuter cette réponse très personnalisée qui est tout à coup là. Mais c'est ça, la sollicitude. Alors, si nous sommes libres, et si nous regardons les autres vraiment, nous pouvons commencer à les aimer. C'est la liberté et cette sollicitude qui déclenchent l'amour en nous. C'est cette formule relationnelle. Le point capital, vous vous rendez compte, c'est la liberté. Nous parlerons encore de la liberté. Un troisième, transparent, c'est l'autoroute. Avec l'autoroute, j'aimerais vous expliquer que vous êtes responsable uniquement de votre voie. N'ayez pas vous soucier de ce qui se passe sur l'autre voie. C'est-à-dire, dans une relation humaine consiste toujours de deux relations. Pour reprendre le couple, il y a ma relation à ma femme et il y a sa relation à moi. Et je suis responsable à 100% de ma relation avec elle. Mais je ne suis pas responsable. Et je ne dois rien faire, et je ne peux rien faire pour sa relation à moi. Responsable de ce que moi je fais, 100%. Et il est clair que le Seigneur me demande d'agir, de parler toujours dans le sens de l'amour envers elle. Mais ce que ça déclenche chez elle, ce n'est plus ma responsabilité. Mais nous avons pas mal de travail à faire parce que celui qui est sur l'autre voie, il peut nous jeter des pierres, hein, sur notre voie. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ces pierres? Les confie, c'est ça. L'autre me jette des pierres ou des rochers même, parfois, hein, sur ma voie. Qu'est-ce que j'en fais? Ces rochers m'empêchent d'aimer. Le courant, le trafic positif de l'amour, si vous voulez, il est interrompu. Qu'est-ce que je fais? Je peux dire, c'est de ta faute, si tu n'avais pas dit cela, mais ça ne résout rien, je suis responsable de ma part à moi. Je suis responsable de libérer ma voix. Digérer les conflits veut dire libérer ma voix de nouveau pour que l'amour puisse de nouveau, le flux du trafic puisse de nouveau aller vers l'autre avec l'amour. Mais l'autoroute nous dit, je suis responsable 100% de ce que je dis, de ce que je fais, de mes émotions, de toute ma personne. Je suis responsable. C'est un effet de la chute aussi que de se rejeter la balle. Ça commence avec Adam et Ève. La femme que tu m'as donnée, hein, c'est elle qui m'a tenté. Hein, ça ne marche pas. Je suis responsable à 100%. Je me rappelle un coup de téléphone avec un homme qui a voulu venir me trouver. Il a dit, je suis dans l'adultère. Est-ce que je peux venir vous voir? En ayant beaucoup à faire à travers des coups de téléphone, je suis devenu prudent. J'ai commencé à entrer en contact avec mon chef, disant, Seigneur, il a dit non. J'ai dit non, vous ne pouvez pas me voir. Il m'a dit, pourquoi pas? Il a dit, vous pourrez me voir quand vous aurez rompu cette relation. Il vous faut combien de temps? Un grand silence. Après un moment, il dit, il me faut 3 semaines. J'ai dit, bon, d'accord, je vous donne un rendez-vous dans 3 semaines. Mais j'aimerais vous dire une chose, dès le début. Je peux vous consacrer, pour régler cette situation, je peux vous consacrer 3 sessions, pas plus. On va y arriver sous une condition. Il faudra que vous acceptiez 100% la responsabilité de ce que vous avez fait. Vous ne pourrez léguer aucun pourcent, ni à votre femme, ni à cette autre femme. Vous êtes responsable de 100%. Est-ce que vous êtes d'accord? Il a dit, oui, je suis d'accord. Alors on peut faire le travail. 100%. Voilà. Et maintenant, étant un peu préparé, nous allons passer à voir un peu les conflits, ces différents types de conflits. J'aimerais encore vous prévenir, j'ai essayé de faire des catégories un petit peu, c'est toujours un peu artificiel, mais je crois que ça peut être utile. Parmi les 4 catégories, il y en a 3 qui ne sont pas, que vous ne pourrez pas éviter, qui sont inévitables, mais qui peuvent être résolus. Il y a 1 catégorie qui est insoluble, mais on peut l'éviter. Nous avons de la chance. Hein. Il y en a 3 qu'on ne peut pas éviter, qui font partie de la nature humaine, mais on peut les résoudre. Il y a 1 catégorie qui est inutile, qu'on peut éviter parce qu'il n'y a aucune solution possible. Il y a 1 grand problème dans les conflits. Nous avons tendance à changer de niveau. Nous avons tendance à faire de chaque conflit un conflit personnel. Je vais vous donner un exemple concret, très flagrant, que j'ai vécu moi-même. J'étais dans un groupe de responsables d'une œuvre qui préparait des semaines de relations d'aide en Suisse alémanique, il y avait dans ce comité une femme qui m'a dit une fois textuellement, « Manfred, si tu n'es pas d'accord avec toi, avec moi, ça veut dire que tu ne m'aimes pas. » Vous comprenez ce que ça veut dire? Le fait d'aimer pour elle voulait dire être toujours d'accord. Le fait d'avoir une autre optique, un autre avis, devenait un problème personnel. Alors elle s'est sentie constamment, toujours de nouveau, rejetée par moi. Pour moi, il n'y avait aucun problème dans le sens que on avait une vision, des buts, une interprétation, peut-être des priorités différentes, c'était tout. Mais pour elle, tout est devenu personnel. Alors, si on déplace un problème objectif au niveau personnel, on ne peut plus le résoudre. C'est pour cette raison qu'il est utile de savoir à quel niveau sommes-nous, quelle sorte de conflit c'est, et d'essayer de rester dans cette catégorie. Parce que si nous mélangeons, les conflits deviennent impossibles à être résolus. Donc c'est une tendance contre laquelle il faut lutter chez nous-mêmes. Vous ne pouvez pas lutter chez les autres, mais chez vous, hein. À ne pas de tout faire un problème personnel. La première sorte de conflit que j'aimerais mentionner, ce sont des conflits de personnalité. J'aurais peut-être aussi pu dire des conflits de caractère. Ces conflits de personnalité sont liés au fait que nous avons d'autres besoins, un autre vécu, un autre tempérament. Nous avons très souvent, dans le couple, nous vivons cela. Je crois que le couple est là de nouveau, un exemple très typique. Dans le couple, nous avons choisi quelqu'un qui était différent de nous. Parce qu'on choisit en général un partenaire selon le principe de la complémentarité. C'est-à-dire nous cherchons dans l'autre ce que nous n'avons pas. Quelqu'un de rapide cherche quelqu'un qui peut prendre du temps. Hein? Mais cet escargot, à la longue, vous comprenez, elle est toujours en course, ou je ne sais pas. Vous voyez, c'est des conflits qui se créent à travers ses personnalités. Alors, il est évident que ces conflits-là, on ne peut pas les éviter. Ces conflits sont là à travers ces divergences qu'il y a entre nous au niveau de la personne. Mais ces conflits de personnalité se trouvent aussi dans des groupes de personnes, comme par exemple dans les conseils, c'est évident. Il y a toujours des types différents, qui ont des besoins différents, qui disent « Ah, pour moi, il faut vraiment avancer. » Et l'autre dit « Ah, ben non, il faut prendre le temps quand même, il faut bien réfléchir, on va pas si vite. » C'est des choses importantes. On se rend compte que chacun a toujours, dans un sens, des arguments tout à fait justes. Juste en fonction de son intérieur, de son univers personnel, vous comprenez? Il y a une logique dans notre univers personnel. Et c'est dans cette logique que nous vivons, et c'est dans ces logiques que nous nous achoppons les uns aux autres. J'utilise parfois, pour montrer cela, j'utilise parfois un dessin que je n'ai pas amené maintenant, deux icebergs. Où est-ce que les icebergs s'accrochent? Jamais à la pointe, en bas, hein, c'est en bas. Les arguments, c'est en haut, mais c'est pas là le problème. Le problème, c'est cette différence de nature, de personnalité, de besoins, d'envie, etc. Quelle est la solution? La solution, nous l'avons mentionnée, Romains 15, 7. Vous vous rappelez? Accueillez-vous les uns les autres. C'est-à-dire, la solution est d'accepter cette différence. Et je crois qu'on pourrait même aller plus loin dans le couple. C'est ça le grand défi, de comprendre que j'ai même besoin de cette complémentarité. J'ai besoin qu'il y ait cette personne qui est plus lente. Comme cette personne a besoin peut-être de quelqu'un qui fait avancer un peu les choses. Et je crois que si on peut s'accepter, on peut commencer à trouver des solutions, parfois aussi avec un peu d'humour, en se connaissant réciproquement, en ayant accepté que nous sommes différents, nous pouvons vraiment mettre ensemble ces différentes possibilités. Et je crois que ça pourrait devenir, en fait, une sorte d'enrichissement aussi dans nos groupes de maisons ou de conseils, quel que soit le groupe, de voir, il y a ça et ça et ça, tout ça. C'est des possibilités humaines qui sont là. Je crois que j'aimerais encore peut-être donner un autre exemple. Il y a un défi lié à cette acceptation, c'est d'arrêter à juger. Je vous donne l'exemple d'un couple que j'ai vu cette semaine. Et il était question du fait que actuellement le mari prend plein de photos parce qu'il y a le printemps, leur jardin trouve ça tellement beau, il prend plein de photos. Et elle, ça l'agace, toujours avec son appareil et des centaines et des centaines caméra digitale, vous voyez. Il n'y a plus de pellicule, hein, ça coûte plus rien. On peut prendre des centaines dans une matinée et ça l'agace. Mais le problème est qu'elle a dit, elle l'a dit littéralement pour finir, c'est l'expression de sa gloutonnerie. Il doit tout avoir. Il ne peut renoncer à rien du tout. C'est là où ça devient grave. Vous comprenez? Si c'est prendre des photos, ça va. Mais si à travers le jugement, à travers l'interprétation de la personnalité, ça devient une gloutonnerie, quelque chose d'insatiable, il est aussi collectionneur et tout ça. C'est là où la petite chose devient un éléphant. La mouche devient un éléphant. Et je crois que là, il y a là vraiment un grand défi. Est-ce que nous arrivons, est-ce que nous serions d'accord de lâcher prise sur ces jugements où nous catégorisons les actes de l'autre? Et ça devient quelque chose de très grave parce que ça tombe dans cette catégorie. Ça nous confirme de nouveau dans cette image que nous avons de l'autre. Si nous arrivions à lâcher prise sur ces jugements, vous savez que le Seigneur nous le conseille très fortement, nous aurions beaucoup moins de conflits à cause de ces différences de personnalité. Une autre catégorie, ce sont les conflits relationnels. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des mécanismes relationnels qui sont liés à notre personne et aux habitudes que nous avons développées, aux habitudes relationnelles, qui s'accrochent, où il y a comme deux crochets qui entrent l'un dans l'autre. Je vous donne un exemple très évident. Si dans un groupe, il y a deux qui ont tendance à avoir besoin d'être au centre, ça devient difficile. Ils auront tout le temps des conflits parce que chacun a développé des habitudes relationnelles qui lui permettent d'arriver à être au centre, de dominer un peu la situation. Quelle que soit la raison par derrière, ça peut être la peur quand on contrôle, quand on est maître des lieux. On ne peut pas être tellement blessé parce que c'est nous qui définissons comment on fait et qui fait quoi. Donc il peut y avoir des raisons très différentes, mais s'il y a les deux qui veulent ça, ces deux crochets vont entrer l'un dans l'autre et ils n'arrivent plus tellement à se libérer. Il y a une autre manière où nos habitudes relationnelles peuvent s'accrocher, c'est dans une mauvaise complémentarité. Et là, j'utilise volontiers l'image du bouton pression. Il y a un creux, il y a une bosse. C'est la faute de qui que ça s'enclenche? De la bosse ou du creux? Mais c'est parce que ça va tellement bien ensemble que ça s'enclenche. Et là, il y a un petit dessin humoristique. Il y a Helga, vous voyez cet Allemand, hein? Il y a Helga et il y a Erwin. Il est dit, Helga rabrouait tout le temps Erwin et Erwin se laissait toujours faire. Vous voyez cette complémentarité mauvaise. Et puis après, aussi dans d'autres domaines, ils entraient tellement bien l'un dans l'autre. Voilà, un bouton pression. Quelle est la solution pour un bouton pression? Il faut qu'une des deux parties devienne plate. Hein? Vous comprenez? Mais comment est-ce qu'on devient plat? Qu'est-ce que ça veut dire? Je crois que tu peux arrêter. Merci. Ça veut dire je lâche prise sur ce que je veux absolument. Je prends conscience de ce que je fais. Et ce serait peut-être dans une situation, si vous êtes dans une de ces situations, vous pourrez une fois prendre un moment avec le Seigneur et dire, Seigneur, dis-moi, quelle est ma part à moi? Et il vous dira peut-être, laisse-lui la place. Laisse-lui la place. Mais tu es sûr? C'est pas bon qu'il ait cette place. Laisse-lui la place. Ne lutte pas avec lui. Lâche prise. Je crois que c'est vraiment là le secret souvent. Il faut une prise de conscience de ce que je fais. Pourquoi j'entre en conflit à travers ces mécanismes qui sont naturels dans mon comportement? Qu'est-ce que je fais moi dans cela? Et puis de lâcher prise. C'est ça, devenir plat. Ça ne s'enclenchera plus. Du fait qu'il n'y aura plus d'adversaire qui voudra la même chose. Il y aura la possibilité que ces conflits soient évités. J'aimerais vous donner encore un autre exemple qui m'a touché, attristé. J'ai eu la demande de deux frères qui avaient commencé une entreprise ensemble et qui s'étaient séparés dans un conflit, et chacun avait continué dans le même domaine, et ils étaient devenus des adversaires acharnés. Au moment où ils allaient encore bien ensemble, ils avaient construit leur maison sur le même terrain. Ils étaient donc voisins, mais ils ne se parlaient plus depuis plusieurs années. Et ils sont venus me demander, est-ce que vous pourriez faire une tentative de réconciliation avec nous? J'ai dit, je veux bien, je vous donne 3 rencontres, mais je vais vous dire une chose. C'est pas un chiffre magique, c'est vraiment par hasard, hein. J'ai vu que certains tiquaient là au chiffre 3. J'ai dit, j'aimerais vous dire une chose à l'avance. Si vous aurez envie d'être compris, il n'y aura pas de réconciliation. Si vous avez envie de comprendre l'autre, il y aura la réconciliation. Vous avez entendu? Lâchez prise sur l'envie d'être compris. De rectifier ce mauvais jugement que l'autre a de mes actes, parce qu'il n'a pas raison. C'est pas ça mes motifs, c'est pas vrai. J'aimerais qu'il le reconnaisse. Ils n'ont pas su lâcher prise sur ce besoin tellement fort d'être compris, d'être justifié. La réconciliation n'a pas été possible. Ils ont persisté à vouloir être compris. Si vous voulez vous réconcilier avec quelqu'un, il faut que vous lâchiez prise sur ce besoin d'être compris, d'être justifié, rétabli. Que la vérité soit rétablie. Si vous voulez vous réconcilier, il faudra faire votre deuil sur ce besoin et dire, je me décide à vouloir comprendre pourquoi il a agi comme ça. quels étaient ses vrais motifs. Maintenant, nous arrivons à un autre type de conflit, les conflits objectifs. Je les ai déjà mentionnés, les conflits objectifs, c'est lié au fait que nous avons une autre vision du monde, que nous avons d'autres priorités dans la vie. Je me suis dit, là, par exemple, si moi j'étais dans un conseil, j'insisterais tout le temps sur le fait qu'il faut faire du travail pour les couples, hein. Et j'ai mes raisons intérieures, hein. Vous comprenez, pour toutes ces choses, pour toutes ces priorités, nous avons nos raisons intérieures. Je suis tellement confronté à la souffrance dans les couples et au fait que ce malaise des couples atteint l'Église de plein fouet. Il faut entreprendre quelque chose. Mais il y a quelqu'un d'autre qui a un cœur pour l'évangélisation qui dira non, ah non, première priorité. Oh. Alors, aussi longtemps qu'on reste à ce niveau et qu'on n'arrive pas à dire à l'autre, mais toi avec ton dada, tu ne peux pas penser à autre chose. Vous commencez ce qu'on fait là? On l'attaque au niveau de sa personne. On le ridiculise. On prend ce qui serait un conflit objectif et on en fait un conflit qui devient personnel. C'est de nouveau ce malheur, comme nous avons dit. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau, pour rester au niveau des conflits objectifs? Le monde a une possibilité qu'il sait manier avec beaucoup de sagesse, j'allais même dire, c'est savoir débattre et négocier. Je ne parlerai pas beaucoup de cette possibilité-là. Je crois que on a développé des instruments qui permettent de savoir comment il faut faire cela, qui sont vraiment utiles, mais j'aimerais parler d'une possibilité que le monde n'a pas, mais que nous avons, et que j'aimerais vous encourager à l'utiliser peut-être plus. Je ne sais pas si vous le faites déjà. Nous avons un conseiller, Dieu. Jacques 1, si vous manquez de sagesse. Jacques 1:5. Si vous manquez de sagesse. Et pour finir, si nous sommes devant ces choix, au lieu d'accumuler les arguments, parce que pour finir, le but de l'argumentation, c'est de gagner, d'avoir gain de cause. C'est celui qui aura les meilleurs arguments qui convaincra les autres. Et nous avons un conseiller qui a une sagesse toute différente, qui sait ce qui est juste maintenant, ce qui est approprié à cette situation-là maintenant, de notre Église, dans ce village ou dans cette ville, si c'est les couples ou si c'est l'évangélisation. Comment est-ce qu'on lui demande conseil? On fait silence et on dit « Seigneur, qu'est-ce que tu nous conseilles ?» Moi, j'aime beaucoup qu'il ne nous donne pas des ordres, mais il nous conseille. Même dans l'Apocalypse, je te conseille. Et j'ai vécu, nous vivons ça dans notre couple aussi, de toutes les décisions, nous les prenons comme ça. Alors, Seigneur, qu'est-ce que tu nous conseilles? Ou qu'est-ce qui est prêt de ta part pour nous? Ce qui m'a beaucoup parlé, c'était Éphésiens 2:10, les œuvres préparées à l'avance. Ça existerait aussi pour une église. Qu'est-ce qui est l'œuvre préparée à l'avance pour nous en tant qu'église maintenant? J'ai vécu ça dans le centre de relations d'aide que j'ai dirigé pendant 20 ans. On était 5-6 collaborateurs. Nous avons pris toutes les décisions de cette façon-là. Et ce qui m'a vraiment frappé, c'est que nous sommes pratiquement toujours arrivés à devenir unanimes. Parfois, il a fallu remettre cela. Je me rappelle, il y avait une fois le choix. Est-ce que nous donnons la dîme de tout, seulement des honoraires ou aussi des dons? Il y avait tout le monde qui était d'accord à travers un moment d'écoute, mais il y avait un collègue qui disait non, faut pas la donner. Alors on ne peut pas continuer. J'ai dit, bon, on met de côté, on reprendra la prochaine fois. Mais est-ce que je peux te demander de préparer pour nous, pour la prochaine fois, une étude biblique sur la dîme? À ce collègue, j'ai demandé. La prochaine fois, il est revenu, il a dit, il faut la donner. Il faut la donner. C'est-à-dire, le Seigneur avait fait un travail de le convaincre à travers sa parole. Moi, je ne savais pas s'il arrivait à cette conclusion, hein. Mais je me suis dit, s'il y a un lieu où on peut chercher cela, ce serait bien la Bible. Moi, je ne savais, j'aurais pas pu donner tous les textes, mais lui, il a cherché, il a trouvé. Et dans ce sens, je crois qu'il y a un chemin. Il faut parfois de la patience, mais il est tellement important de ne perdre personne dans cet essai d'arriver à être vraiment un dans nos décisions. Mais j'aimerais beaucoup vous encourager à cette possibilité qui est là pour nous de demander conseil à Dieu. Et je crois que c'est vrai qu'en général, tout le monde peut se soumettre si dans notre couple, Dieu donne raison à Fleurette. Vous voyez ce que je veux dire, dans le sens que ce que elle aurait désiré ressort comme ce que le Seigneur nous conseille. Je ne l'ai jamais ressenti comme une sorte de gifle pour moi. C'est sa sagesse, je peux me soumettre facilement à ce qu'il nous conseille. Je suis tellement convaincu que ce qu'il nous conseille est la meilleure possibilité qui existe. Et maintenant, j'arrive encore au conflit inutile, bien sûr. C'est des conflits, comme j'ai déjà dit, où il n'y a aucune solution. Pourquoi est-ce qu'il n'y a aucune solution ? Parce qu'on ne peut pas le savoir. Je vous donne un exemple. Je reviens toujours un peu au couple, c'est un peu évident pour ceux qui savent ce que je fais. Sur la question comment nous sommes-nous rencontrés la première fois, il y a deux histoires qui ne sont pas identiques, celle de la femme et celle du mari. Vous pouvez faire l'essai, hein? Vous pouvez faire l'essai. Vous risquez, peut-être que vous serez l'exception, mais c'est rare, ces exceptions sont très rares. Ça va jusque dans l'ordre des choses. D'abord ça et après ça. D'abord tu as cité, ah non, j'ai pas dit ça. C'est un peu différent. Comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème? On peut pas. Il faut accepter qu'il y a deux réalités subjectives. C'est ça. Il y a des réalités subjectives, ça veut dire que nous n'avons pas vécu le même, nous avons fait la même expérience, mais nous n'avons pas vécu la même chose de la même manière. C'est comme deux témoins qui regardent le même accident de route, de deux points différents. Ils ont vu juste, mais ils n'ont pas vu tout. Alors ils ont une autre vision sur le même accident. Et je crois que c'est une réalité toute simple. Nous vivons, et ce que nous vivons est comme transformé à travers la réception de ce que nous vivons, à travers la manière de le retenir. Et ça crée des réalités subjectives. Il y a dans ces réalités subjectives, ça c'est une des raisons, je crois que dans les couples, beaucoup de conflits, je pourrais parler de ce matin au petit déjeuner entre Fleurette et moi. Il était question du fait que nous avions acheté un Karcher une fois. Et Fleurette a dit, nous ne l'avons jamais utilisé. Puis j'ai dit, mais on l'a utilisé plusieurs fois. Oh, bah, peut-être une fois. Vous voyez un peu? Impossible de re-savoir combien de fois nous avons réellement utilisé. Il y en a souvent dans un couple un qui prétend avoir la meilleure mémoire que l'autre. Mais, si c'est vraiment vrai, on ne peut pas le savoir. Alors ces conflits, qu'est-ce qu'on fait? Il faut trouver, et je crois que dans les couples, c'est bien de trouver une sorte de mot-clé qui permet de comprendre ce qui arrive. Nous, notre mot-clé, c'est, je crois que c'est la barbe du roi, dont on ne savait même pas s'il en avait une ou non. Vous voyez, c'est un peu ce genre de conflit-là. Je crois que c'est la barbe du roi, et puis ça fait rigoler les deux, et puis c'est fini. On a compris, on s'arrête. Et je crois qu'on peut les éviter aussi. Dans le sens de voir, ah ben, ça c'est une question où ça vaut même pas la peine que je réponde. Où j'entre en dialogue, parce que c'est un de ces domaines où la réalité subjective risque de créer des problèmes, des conflits. Je crois que dans les couples, dans les relations étroites, familiales, ce type de conflit a une très très grande, un très grand pourcentage. Si vous pouvez éviter ces conflits-là, vous évitez beaucoup de conflits inutiles et insolubles. Insolubles. Dans la même direction vont ces conflits qui sont liés aux stéréotypes, où l'un dit, bah, de toute façon, tous les dentistes sont, vous voyez, et puis, nous, on en a un dans la maison, tous les dentistes, de toute façon, nettoient leur voiture avec leur brosse à dents. C'est ce type de remarque, de stéréotype qui fait réagir d'autres, mais c'est de nouveau une des choses où on dit, mais il y en a quand même qui ne le font pas, etc. Vous voyez ça? Je crois que vous avez compris. C'est un type de conflit qu'on peut éviter, mais que nous avons du mal à éviter. Mais au moins apprendre à en sortir. Pour arriver à la fin de cette unité-là, le grand problème ne sont pas les conflits. Nous avons déjà dit, les conflits sont inévitables. Il y a beaucoup de conflits qui sont comme liés à notre nature, à notre personnalité, à nos habitudes, à des choses qu'on ne peut pas simplement changer. Mais le défi est de savoir digérer. Digérer. Parce que les conflits, il faut les régler aussitôt. Je vous donne un exemple concret. J'ai développé en moi, et c'est quelque chose que vous pouvez développer aussi en vous, comme une sorte de baromètre intérieur qui indique comment je vais à l'intérieur. Et il y a une expression que j'ai formée pour moi-même, je ne sais pas si elle vous dira quelque chose, mais peut-être par l'image elle vous dira, parfois je me sens comme fripé à l'intérieur. Un peu fripé, il y a un peu des plis, c'est pas... Je suis pas vraiment à l'aise. Je me rappelle un moment dans mon travail où, dans la pause, j'ai eu l'impression il y a quelque chose en moi là. Qu'est-ce qu'il y a? Et puis il faut commencer à se poser la question. C'est très très biblique. Les psaumes. Pourquoi es-tu si triste en moi, mon âme? Vraiment ce regard sur moi-même et de dire qu'est-ce qui se passe en moi? Moi, j'ai pris l'habitude de prendre ces moments devant le Seigneur, de dire, Seigneur, il y a quelque chose en moi, qu'est-ce que c'est? Et puis, je me suis rendu compte, je me rappelle de ce moment, qu'il y avait la personne que j'avais vue dans l'entretien avant, qui avait fait une remarque qui m'a comme touché, qui m'a un peu comme accusé. Une remarque, je ne sais plus ce que c'était. Et j'ai compris, ah, il y a une petite flèche qui est restée là. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Il faut la sortir, la flèche. Digérer veut dire faire ce travail que fait notre estomac. Notre estomac a une capacité incroyable. Il sait tirer profit de pratiquement tout ce que nous mangeons. Si vous pensez à des situations de famine et à ce que les gens mangent, de l'écorce d'arbre, de l'herbe, et l'estomac sait en tirer profit. Ça, c'est un côté de cette digestion. Il y a dans chaque conflit une perle à ne pas rater, mes amis. C'est à travers la digestion qu'on découvre la perle. Mais il y a dans chaque conflit aussi des choses à évacuer du système. Parce que notre corps sait qu'il faut évacuer certaines choses dans la nourriture qui deviendraient des poisons pour notre corps. Vous savez comment il les évacue. C'est ce travail-là qu'il faut savoir faire. Et c'est avec l'encouragement pour ce travail que j'aimerais terminer. Tu pourrais montrer peut-être le transparent, Jean-Jacques. J'aimerais vous inviter que vous puissiez prendre maintenant peut-être une situation très concrète. un conflit que vous venez de vivre. Moi, je me rappelle, quand j'ai travaillé, j'ai dû écrire un article à ce sujet. Et je me rappelle que juste avant, j'avais eu un coup de téléphone de quelqu'un qui m'est très proche et qui, sans aucune remarque préalable, m'est tombé dessus avec une accusation incroyable. Vraiment comme un éclair dans un ciel qui, pour moi, était avant bleu et beau. Et il m'a dit, tu es un profiteur. Et je me rappelle une autre situation. Dans un centre de formation, j'avais fait un séminaire de plusieurs jours. Il y a eu la possibilité que les étudiants puissent avoir des entretiens. Il y a eu plusieurs entretiens, il y a un jeune homme, plus si jeune, 40 ans à peu près, qui s'était inscrit aussi. Je m'attendais à ce qu'il m'expose un problème. Et il me dit au début, écoutez, j'ai passé maintenant une nuit blanche à cause de vous. Et je suis là pour vous dire que le Seigneur a horreur de ce que vous faites. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Au moment donné, je pense, le mieux, c'est d'écouter. Mais ça déclenche des choses en nous. Comment est-ce que ça s'en sort après? Moi, je sais comment je me sens. Je me sens comme une ville après un tremblement de terre. Il y a des choses qui se sont effondrées. Il y a des débris partout. On s'y retrouve plus. Il y a quelque chose comme un tourbillon intérieur. Émotionnel aussi. C'est quelque chose de fort. Et je crois que le premier point, c'est prendre conscience de ce qui se passe en moi. Et pencher mon cœur devant le Seigneur, dire, Seigneur, ça m'a fait tellement mal. Ça m'a vraiment blessé. Tu sais que ce n'est pas juste. Tu sais que ce n'est pas vrai. Et je trouve formidable qu'on puisse y aller. Vous n'avez pas besoin de ménager le Seigneur. Si vous lisez les psaumes, vous voyez de quelle façon les gens ont épanché leur cœur. Je pourrais les tuer. C'est pas très biblique. Mais c'est très vrai. C'est la réalité. C'est la réalité humaine, relationnelle. Ah, on pourrait les égorger parfois. On ne le fera pas, bien sûr, mais il y a quelque chose de cela et on peut y aller. Et puis, là, il faut monter peut-être peu à peu avec, oui, et puis commencer à faire le tri. Ça, c'est très important. Essayez de donner des noms à ce que vous vivez. La tristesse, la révolte, l'amertume, l'envie de vengeance. Et essayez d'être franc avec vous-même. Dites ce que c'est. Et ne trichez pas avec vous-même. Faites le tri. Et en faisant le tri, je crois qu'il y a toujours le tri de ce qu'ont fait les autres. Et quand on fait le tri proprement, on découvre aussi ce qu'on a fait. On découvre aussi. Et je me rappelle ce coup de téléphone où on m'a reproché d'être un profiteur. Quand j'ai parlé avec le Seigneur, il m'a dit, tu sais, tu n'es pas un profiteur, mais il y a des moments où il y a des tendances dans cette direction-là. Alors, c'est la perle, hein? C'est la perle qu'on peut trouver. La perle dans le sens que je prends conscience de qui je suis et après je pourrais me débarrasser de ces attitudes négatives. Je peux entreprendre quelque chose après. Je dis, Seigneur, merci d'avoir montré. J'ai pris conscience et je veux renoncer à cela. Je te demande, Seigneur, au moment donné, mets le gardien devant la porte, dit Manfred. C'est de nouveau un moment. Tu renonces? Je ne veux plus, Seigneur. Alors faire le tri, La première chose après, c'est pardonner à l'autre. Pardonner à l'autre. Comment est-ce qu'on pardonne? Le chemin du pardon est nécessaire, c'est un chemin, est nécessaire pour notre âme. Le pardon en lui serait tout simplement un acte juridique, mais notre âme a besoin de faire un chemin. Et personnellement, j'ai toujours utilisé le chemin de commencer par l'accusation. L'accusation. Seigneur, je leur reproche. Je lui reproche. Je lui reproche. Et là aussi, dites les choses directement. Parce que vous savez qu'après, vous passerez au pardon. Je lui reproche d'avoir menti. Parce qu'après, vous passerez au pardon. Pardonner veut dire, je te pardonne dans tous ces points où je t'ai accusé. Et pardonner veut dire, je n'ai plus besoin de rien de ta part. Pardonner veut dire, j'ai lâché prise sur toi, je n'attends plus rien de toi. Tu n'as pas besoin de reconnaître. Tu n'as pas besoin de voir ta part. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus, devant le Père, sur la croix, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ils ne rajoutent même pas, mais s'il te plaît, montre-le-leur. Même pas. Même pas. C'est ça la miséricorde et le pardon, mes amis. C'est jusque-là qu'il faut aller. Pourquoi est-ce que le Seigneur nous ordonne le pardon? Parce que les choses que nous n'avons pas pardonnées rongent notre personne de l'intérieur. C'est comme un acide qui ronge notre âme. L'exemple typique pour moi, c'est Corrie ten Boom dans son travail avec les victimes des camps de concentration, ces femmes. La conclusion est très simple. Les femmes qui sont arrivées à pardonner aux Allemands qui avaient fait ça, elles ont pu continuer à vivre. Les autres ont été cassées pour le reste de leur vie. C'est le pardon qui rétablit la possibilité de la vie et c'est le pardon de pardonner qui rétablit la possibilité d'entrer de nouveau en relation et d'aimer. C'est notre pardon. Et je crois que le Seigneur veut nous venir en aide. Après, il y a aussi ma faute, bien sûr. Reconnaître et recevoir le pardon. Le dernier point encore, me réconcilier avec ce qui a été. Me réconcilier veut dire, j'accepte que ça se soit passé. Et je suis d'accord aussi de vivre avec les conséquences de ce qui s'est passé maintenant. C'est-à-dire, après le tremblement de terre, il faut reconstruire. Je suis d'accord de faire ce travail de reconstruction. Je suis d'accord d'accepter les conséquences de ce qui s'est passé. Pas seulement ce qui s'est passé, mais aussi la suite. Qu'est-ce qu'on fait quand on a fait cette étape? Cette étape est une étape importante. Et j'aimerais terminer par ce défi. Vous devez apprendre à rétablir les relations qui ont été brisées, cassées par des conflits. Vous devez apprendre à les rétablir d'une façon unilatérale. Est-ce qu'on comprend ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous faites tout ce qui est nécessaire sans avoir besoin de l'autre pour que vous soyez de nouveau capable, pour reprendre l'image de l'autoroute, que l'amour de vous puisse aller à l'autre. Résoudre d'une façon unilatérale la relation, redresser la relation, revenir dans la relation, l'accepter de nouveau, d'une façon unilatérale sans avoir besoin de l'autre. Quand les deux adversaires auront fait cela, après, il y aura des échanges possibles qui seront vraiment constructifs et qui pourront amener une bénédiction. Mais j'ai constaté dans mon travail que quand les gens disent « j'ai besoin de parler avec lui pour pouvoir lui pardonner », vous savez ce qui se passe dans ces moments, il y a toujours de nouvelles blessures. Ça augmente. La plaie devient encore plus grande. il faut arriver à faire ce pas unilatéral comme Jésus l'a fait sur la croix. Pardonne-leur. Un pas unilatéral, vraiment. Étienne l'a fait aussi. Exactement le même pas. J'aimerais beaucoup vous encourager à apprendre à digérer sans avoir besoin de l'autre et d'être prêt de nouveau à la relation. Et si après vous pouvez vous rencontrer, vous pourrez vraiment parler du différent d'une façon qui pourra être en bénédiction pour les deux. Voilà. Il y a maintenant, je crois, encore une communication, Jean-Jacques, hein?
Merci, Manfred. Je crois qu'on aurait plus besoin de silence pour intégrer ce que tu nous as dit. Alors, on peut faire le silence dans nos cœurs tout en faisant le terrible effort de m'écouter et d'écouter ce que nous dira aussi Daniel. Nous aurions bien aimé vous offrir un stand de librairie. Malheureusement, ça n'a pas été possible. Je vous propose tout de même quelques titres dont j'ai mis les références sur un petit bout de papier. Il y a Jacques Poujol, bien sûr, qui a écrit un livre bien connu sur la question des conflits. Il y a un livre plus récent de Frédéric Rognon, « Gérer les conflits dans l'Église », sorti l'année dernière aux éditions d'Olivetan. Et hier, j'ai reçu « Les cahiers de Christ seul, entrer en conflit » par Michel Sommer et Juan José Romero. C'est des éditions Ménonites. Alors, j'ai les références de ces livres ici. Les dossiers vivre, le numéro 15 des dossiers vivre, a pour titre précisément les conflits. Alors nous n'en avons pas ici, mais vous pouvez obtenir ce numéro 15 au bureau de Saint-Pré. Et puis Manfred nous a promis un livre qui apportera, développera, synthétisera, je ne sais pas, en tout cas il représentera les dessins que nous avons, les schémas que nous avons vus. Ce livre sortira sous forme d'un dossier vivre, mais seulement cet automne. Alors, si vous êtes vraiment impatient, je vous suggère en consolation une toute petite brochure, sans trop de prétention, qui est sortie hier ou avant-hier, enfin bref, à partir d'un certain nombre de documents. Une petite brochure qui est déjà sur le site des ISR, que vous pouvez piquer gratuitement sur le site des ISR. Ceci dit, sur le site de la FRI. Vous avez raison, il faut que je corrige. Pourtant, mon papier est correct, hein, mais voyez, je regarde l'Assemblée au lieu de regarder mon papier. Alors, sur le site de la FRI, vous avez cette brochure que Serge Carrel a mis. Ceux qui la désirent sous forme de papier, j'en ai une centaine d'exemplaires en vente ici, à votre bon cœur, entre 3 et 5 francs. Alors, cette brochure, en fait, évoque la question du ministère pastoral, évoque la question de voir si le titre de pasteur, c'est un titre pertinent, ou bien au contraire, s'il faut l'abandonner et le remplacer par un autre titre. Elle évoque aussi le rôle de la commission des ministères. Elle débute par un travail biblique. Bref, cette brochure est à votre disposition.
Je continue avec les annonces, tout simplement pour vous rappeler le séminaire pour responsables d'église, consommation et gestion du temps, quel choix éthique pour un style de vie prophétique à Emmaüs le lundi 7 et mardi 8 mai. Simplement un petit rappel. Maintenant, c'est vrai que comme l'horaire avance et rejoint quelque chose de tout à fait naturel pour chacun d'entre nous, c'est le repas. Il y a quelques consignes qui sont à donner pour la gestion au mieux dans ces locaux. Il y a donc, avec vos pique-niques que vous avez pris, si vous les avez pris, de quoi manger dans le local ici, dans la salle de conférence, ou alors à l'extérieur, sur la terrasse gravillonnée. S'il vous plaît, n'allez pas dans le talus ou sur les herbages, même s'ils sont jaunes, il y a une raison de ne pas aller là-dessus. Gardez plutôt les pieds sur le gravillon ou les murs qui sont là-bas, plutôt sur l'arrière. Sinon, il y a de la soupe qui a été préparée ce matin et cuisinée avec beaucoup de, beaucoup de soins et qui sera distribué dans la salle ici à côté où vous avez pris le café et les croissants au début. Il n'y en aura pas qui sera distribué ici ou à l'extérieur. Donc si vous avez envie de soupe, vous allez vous asseoir là où il y a les tables à ma droite. Simplement pour une question question pratique. Voilà, je crois que j'ai tout dit au niveau du repas. Tu as une petite annonce ?
Je sais pas si ça marche, oui. On a une équipe de techniciens là-bas qui sont très efficaces. Ils sont même prêts, d'ici la fin de la journée, à mettre à votre disposition les CD des interventions de Manfred. Donc, pour ce faire, si vous le souhaitez, il y aura 3 CD à disposition au prix de 12 francs. Il faut s'inscrire sur cette feuille qu'on va mettre là-bas près des 2 techniciens qu'on remercie pour leur efficacité. C'est impressionnant. Merci beaucoup à vous.
Mais avant de vous lâcher pour le repas et que vous puissiez rassasier une autre partie de votre corps après ce que nous avons pu entendre ce matin, j'aimerais prier pour ce repas. Je vous invite à incliner vos têtes. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour toute la nourriture spirituelle que nous avons pu recevoir ce matin. Permets que nous puissions la digérer, que nous puissions aussi la mettre en pratique dans les temps qui viennent, qui seront devant nous. Mais maintenant, nous te demandons que tu bénisses les différents repas que nous avons emportés avec nous et que nous allons partager peut-être avec ceux qui sont en face de nous à une table. Nous te demandons de bénir aussi les différents entretiens, les différents partages que nous aurons, qu'ils soient verbaux ou tout simplement un sourire. Et nous te remercions, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous ce matin, maintenant à midi, mais que nous aurons aussi cet après-midi. Amen. Je vous donne un dernier rendez-vous, c'est celui de 13h45 pile.